Il est 8h sur Europe 1.
Ce sur quoi on insiste cette année, c'est que toutes les personnes qui sont visées par les recommandations se fassent vacciner effectivement.
Ça n'est pas un remède miracle, mais le vaccin contre la grippe saisonnière, s'il était plus utilisé que d'habitude, permettrait d'éviter une double dose de patients dans les hôpitaux cet hiver avec le Covid. Autre vaccin sous-utilisé, celui contre le chômage, baptisé activité partielle de longue durée, les entreprises tardent à signer des accords. Dans ce journal, Donald Trump, qui promet le refroidissement quand on lui parle réchauffement climatique, le festin des scolytes, un scarabée tueur d'arbres qui dévore les sapins d'Alsace sans modération, et le cru 2020 des Bourgogne qui s'annonce exceptionnellement bon, même si là c'est avec modération.
Plan de relance, rassemblement à gauche, mais aussi débat sur la sécurité. L'invité politique d'Europe Matin à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe Matin. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'autre épidémie qui menace et qui fait habituellement 10 à 12 000 morts en France. On parle de la grippe qui risque cet hiver d'engorger les hôpitaux alors que l'on redoute une deuxième vague de Covid dans les services de réanimation. Contre le Covid, pas de vaccin pour l'instant, mais contre la grippe saisonnière, plus de 13 millions de doses commandées par le ministère de la Santé.
Anne Le Gall, c'est l'équilibre du système hospitalier qui est en jeu, d'où l'appel de nombreux médecins à vacciner bien plus massivement.
Il n'y a toujours aucune obligation, mais les plus de 65 ans, les personnes fragiles et les femmes enceintes sont encore plus fortement invitées à se faire vacciner contre la grippe cette année. Les industriels ont prévu 20% de doses supplémentaires. Et si les autorités sanitaires insistent particulièrement sur cette précaution, explique le professeur Elisabeth Bouvet, présidente du comité technique des vaccinations, c'est pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés par une double épidémie.
L'idée et l'essentiel, c'est d'essayer de limiter au maximum les besoins en santé liées aux complications de la grippe. Donc ce sur quoi on insiste cette année, c'est que toutes les personnes qui sont visées par les recommandations se fassent vacciner effectivement, ce qui n'est pas le cas habituellement puisqu'on n'est qu'à à peine un peu plus de 50% de la population qui est effectivement vaccinée.
Le vaccin n'est efficace qu'à 60 ou 70%, c'est vrai, mais le personnel soignant est aussi invité à faire un effort, car un tiers seulement se fait habituellement vacciner contre la grippe. Pour les personnes en bonne santé, en revanche, aucun intérêt supplémentaire à cette vaccination. L'injection antigrippale ne booste pas l'immunité contre le coronavirus.
Hier, de nouvelles restrictions ont été annoncées à Bordeaux et Marseille, limitant les rassemblements, les fêtes, les sorties scolaires, les visites dans les EHPAD.
Les soirées étudiantes aussi sont visées, alors qu'on est en pleine rentrée dans le monde universitaire. Coup dur pour les traditionnels week-ends d'intégration.
Oui, comme Benjamin Péter l'a constaté à Toulouse, les nouveaux étudiants n'auront pas droit à ce petit rite de passage.
Là, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas eu de cours, en sachant qu'ils n'ont pas dû passer le bac. Plein de facteurs qui font que c'est encore plus compliqué pour eux qu'une rentrée habituelle.
Alors pour les 3000 étudiants de première année qui ont fait leur rentrée, Katia Rompopoulou, la présidente de la Corpo Science, n'a pas l'intention de bâcler leur intégration. D'habitude, pendant une semaine, l'association enchaîne jeux, barbecue, blind test, soirée et même saut à l'élastique au-dessus du campus. Cette année, ce sera plus sobre, mais tout l'été, ils ont cherché comment adapter leurs événements.
Pour nous, nos soirées d'intégration, en général, on les faisait en boîte. Cette année, on ne peut pas, du coup. On va quand même essayer de faire un équivalent dans des bars en plein air. Le barbecue, ça va pas du tout être un barbecue classique comme on l'entend, mais si le restaurant, donc avec des tables et un système de commande, en sachant que les associatifs qui vont servir ces étudiants auront eu une formation par rapport au service pour qu'il n'y ait aucun risque. On a trouvé des moyens pour pouvoir mettre en place des événements, même si c'est plus limité. Pouvoir quand même accueillir ces étudiants, les faire se sentir bien et pas seuls, quoi.
Le traditionnel week-end d'intégration, lui aussi, n'aura pas lieu. Ils réfléchissent à le remplacer par une journée, mais seulement si la situation sanitaire le permet, puisque Katia en a bien conscience, tous ces événements, même distanciés, pourraient être annulés si le protocole devait se durcir. À l'université Paul Sabatier de Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Au cœur du confinement, il y a eu jusqu'à 9 millions de Français au chômage partiel, un filet de sécurité qui a permis d'éviter les licenciements.
Mais aujourd'hui, de très nombreuses entreprises n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, on redoute faillite et plans sociaux, alors qu'il y a un moyen de l'éviter dans de nombreux cas grâce à l'activité partielle de longue durée. Le principe, les salariés travaillent moins, mais touchent 84% de leur salaire net grâce à une aide de l'État. Pour cela, il faut signer un accord, Olivier Samin. C'est là que ça tarde à monter en puissance.
Il y a eu Safran, il y a eu Bosch, ça c'était cet été, mais depuis, plus grand-chose. Dans beaucoup de secteurs, les entreprises préfèrent s'en remettre à un accord de branche. Les PME notamment, qui ne sont pas outillées pour mener une négociation. Sauf qu'au niveau des branches aussi, il y a du retard à l'allumage. L'accord dans la métallurgie, conclu fin juillet, et celui, la semaine dernière, dans la branche Syntec, la branche des bureaux d'études, d'ingénierie et des sociétés de conseil, ces accords font un peu figure d'exception. Et pourtant, comme l'explique le directeur général de la Fédération Syntec, Mathieu Rosy, l'enjeu est de taille.
On estime, si rien n'est fait dans la branche, le potentiel de licenciement sur les 2-3 prochaines années de 70 000 à 100 000. Vous dire combien précisément de licenciements vont être évités grâce à cet accord, je ne le peux pas. Mais on sait que sur ces 70 000 pertes potentielles, une partie non négligeable va se trouver sauvée grâce à ce dispositif.
Les hôtels, cafés, restaurants pourraient être le prochain secteur à conclure un accord. La négociation va démarrer la semaine prochaine et patronat et syndicats veulent aller vite. Même chose dans le secteur de la propreté. Mais d'autres grandes branches sont plus en retrait. Le bâtiment, par exemple, ne s'interdit pas d'ouvrir une négociation, mais laisse plutôt faire pour l'instant les entreprises. Le textile, quant à lui, songe à s'y mettre, mais n'a pas encore de mandat sur le sujet.
Des grands patrons demandent de clarifier la transition vers le zéro émission. Ils sont 150 PDG et pas forcément les moins pollueurs de la planète.
Total, Coca-Cola, Volvo, Philip Morris, H&M ou encore Apple qui demandent aux dirigeants européens une réduction de 55% au moins des émissions de CO2 d'ici 2030. Cela nous donnerait la confiance nécessaire, disent-ils, pour investir de manière décisive. Lui a une nouvelle fois laissé parler son climato-scepticisme. Donald Trump, interrogé par un agent de protection des ressources naturelles de Californie, à propos des incendies géants et du réchauffement de la planète, le président des États-Unis s'est montré assez sûr de son fait.
Ça finira par se refroidir, vous allez voir.
J'espère que la science est d'accord avec vous.
Oh, je ne pense pas que la science le sache, en fait.
Et ce que la science sait à travers les relevés des thermomètres et des pluviomètres, c'est que la chaleur et la sécheresse qui sévissent sur de nombreuses régions françaises.
En Alsace, le manque d'eau favorise le développement de scarabées qui nuisent aux sapins, une véritable hécatombe, alors que le budget de très nombreuses communes rurales repose sur l'exploitation du bois.
Un reportage d'Arthur Mbaché à Cévennes, dans le Haut-Rhin.
Il suffit de lever les yeux et puis vous voyez les dégâts que la sécheresse nous fait d'année en année. On n'a plus que les yeux pour pleurer, quoi, je veux dire.
Les taches grises et beiges étendent leur emprise sur la forêt. Ici, à Cévennes, comme partout ailleurs dans le massif des Vosges, la sécheresse tue les arbres. Déjà 30% des 1400 hectares de la commune, assure le maire Hubert Flure. Aujourd'hui, la forêt vous rapporte zéro ?
Très très peu. C'est de l'ordre de 20% de ce que c'était il y a 10 ans. On a une petite ruelle à Cévennes qui demande à être macadamisée, à être mis dans les normes. Mais ça fait des années que ça traîne et puis chaque année on repousse parce qu'on n'a pas les finances. Ça va être ric-rac. On sera au ras des pâquerettes dans les années à venir, quoi.
25 euros le mètre cube de bois contre 70 en temps normal. Et encore, ça semble bien dérisoire à entendre Jean-Christophe Villaume de l'Office national des forêts.
Tu dis ça va aller mieux cette année, ben non, rebelote, resécheresse pendant le confinement. Là. Après, ça va un peu mieux en juin, là, juillet le plus sec depuis je sais pas combien de temps. On est en septembre, il fait encore 31 degrés. Ça sent vraiment le sapin.
Si les prévisions se confirment, ajoute le forestier, plus 8 degrés en 2100, il n'y aura plus que des cailloux. Ici, dit-il, ce sera le Pakistan, dans une vallée encore à peu près verdoyante. Arthur Mbaché, Europe 1.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. L'Algérie et la dérive du pouvoir contre la liberté de la presse.
Et puis nous ferons un détour dans les vignes bourguignonnes où l'on compare déjà 2020 aux plus grandes années.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est aujourd'hui que le journaliste algérien Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, connaîtra le verdict de son procès en appel pour atteinte à l'unité nationale. 3 ans de prison ferme en première instance. Reporters sans frontières réclame sa libération immédiate en raison de son état de santé.
Plus globalement, en Algérie, la répression contre les médias inquiète de plus en plus. Écoutez le reportage de Nour Chahine.
Il ne se souvient pas d'avoir connu pire période pour la liberté d'expression en Algérie. Khadi Hassan est à la tête d'un site d'information et d'une web radio, tous deux bloqués par le pouvoir. Depuis la fin du Hirak, il fait partie d'un collectif de soutien pour les journalistes emprisonnés.
Aujourd'hui, il y a 8 journaux en ligne qui sont coupés au lectorat algérien. Il y a un harcèlement des derniers médias papiers de la grande période glorieuse des années 90. Et évidemment, l'audiovisuel en Algérie est complètement sous la chape du régime. Jamais, jamais, depuis de longues années, la presse algérienne n'a été autant réprimée.
Des partis politiques et des membres de la société civile dénoncent l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Un constat partagé par l'avocate et activiste Zobida Assoul.
Toutes les poursuites qui ont été faites contre les hirakistes, les activistes, les politiques, les journalistes sont des poursuites purement politiques parce qu'on veut faire taire les voix discordantes, on veut faire peur aussi aux journalistes, aux politiques, aux activistes de ne pas continuer. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est d'étouffer le Hirak.
Le Hirak aura permis le départ de Bouteflika après 20 ans de règne. À ce jour, cela semble être le seul et unique acquis de la révolte populaire en Algérie.
Autre procès qui commence aujourd'hui au Japon. L'ancien bras droit de Carlos Ghosn, Greg Kelly, plaide non coupable ce matin, accusé d'avoir volontairement oublié de déclarer 73 millions d'euros que Carlos Ghosn était censé toucher plus tard. Le procès procès doit durer 10 mois.
Et on vous emmène donc dans le vignoble bourguignon. Lui a profité de conditions climatiques idéales, en tout cas pour le développement de la vigne.
Oui, résultat, le vin de 2020 sera divin, Jean-Luc Boujon.
Au Clos Vougeot, prestigieuse appellation des Côtes de Nuit, les vendanges démarrées le 24 août sont déjà terminées depuis une semaine. Les vendanges les plus précoces de l'histoire avec un raisin parfait selon François Labbé, propriétaire du château de la Tour.
Oui, c'est bon. C'est un raisin qui est sain, qui ne présente aucune trace de mildiou, d'oïdium ou de pourriture. Je pense que 2020 est un très beau millésime. Les blancs sont déjà très précis, très belle minéralité. Pour les rouges, des nuits fraîches nous ont apporté cette acidité qui va rendre les vins très agréables. Vraiment le pinot qu'on boit avec plaisir en disant « Ah, c'est vachement bon, redonne-moi un autre verre ».
2020 ressemble même carrément à l'année parfaite en Bourgogne. Pour la première fois depuis longtemps, les vignobles n'ont été touchés ni par le gel du printemps, ni par la grêle de l'été, explique Xavier Monod, vigneron à Meursault.
Grâce à Dieu, on a été épargné cette année. On a un beau millésime en cave. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des petits arrosages pendant l'été, ce qui a permis à la plante de bien résister à la sécheresse. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a vraiment un beau millésime dans les deux couleurs, dans la même lignée que 89, 90, 85, des très très grands millésimes.
De belles perspectives donc, un peu perturbées tout de même par la crise sanitaire qui a fait baisser les exportations, notamment vers les États-Unis et l'Angleterre. Meursault, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et on entendait la satisfaction gustative de ce vigneron, ça promet.
Ça promet, on va attendre, on va patienter un petit peu. François Gécrier, merci beaucoup. C'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.